Frédéric de Tovarniki. 7 jours en Inde avec Satprem.
Dans sa retraite, au cœur des montagnes bleues, dans le sud de l'Inde, Satprem poursuit le récit de cet étrange roman d'aventure que fut sa vie. Un itinéraire, une quête, pour répondre à une question qui s'est posée à lui dès son enfance en Bretagne, puis avec une acuité terrible dans les camps de concentration nazis. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le sens de tout ce qu'on vit? Après sa rencontre avec Sri Aurobindo et Mère, sa compagne, qui dirige l'ashram de Pondichéry, il repart pour la Guyane, devient chercheur d'or, s'enfonce dans la forêt vierge pour y sentir vibrer, dit-il, la source de la vie. Mais ce bond en arrière dans le passé de la Terre ne lui suffit pas. Ne faut-il pas plutôt aller vers l'avenir? Il se souvient du regard de Sri Aurobindo et de Mère. Il repart pour l'Inde, devient sannyasin, moine mendiant, et nous raconte ici ce que c'est que d'errer dans l'Inde du Sud, sur les routes, jusqu'aux pentes de l'Himalaya, territoire des yogis et des gourous. La vibration des temples, la marche interminable pour chercher la réponse à une question. L'Inde fascinante, mais aussi somnolente. Mais que ramène-t-on de l'Himalaya?
Je suis redescendu de cet Himalaya. J'ai repris la route vers le sud. Évidemment, il y a cette grande beauté de l'Inde. Ces gens, ces êtres de l'Inde. Cette si grande gentillesse qu'on rencontre partout. N'est-ce pas? Partout où on vous ouvre la porte. Partout il y a un sourire. Il y a quelque chose qui comprend bien. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Ils sentent. Ça, c'était aussi une grande grâce de l'Inde. Ce peuple où on ne se sent pas, même avec ma cette peau blanche, n'est-ce pas, où on ne se sent pas vraiment l'étranger. On peut se faire remarquer, il y a des gosses qui peuvent vous courir après, mais on ne se sent pas étranger. Et puis ils sentent qui vous êtes. On ne triche pas avec eux. Ils sentent qui vous êtes. Alors ça, il y avait cette grande gentillesse de l'Inde, bien sûr. Et puis toute cette dimension des temples de l'Inde. Oui. C'est ça qui aurait pu me perdre définitivement, en fait, plus que l'Himalaya. C'était certains de ces temples, où il y avait une vibration si belle. N'est-ce pas? Vous ne savez pas ce que c'est que le sanskrit. C'est une langue si pleine, si dense, si investie de pouvoir. On ne sait pas d'où elle vient, cette langue. On a l'impression qu'elle vient de quelque chose d'avant l'homme. On a l'impression de sons qui n'expriment pas le langage que nous connaissons avec des sujets, des prépositions et des compléments directs, n'est-ce pas? Des sons qui ont un pouvoir et qui expriment quelque chose. Alors dans ces temples, il y avait cette vibration-là, qui pour moi était très... très fascinant, très... On avait l'impression qu'on avait envie de chanter avec eux, de danser, de... Il y avait quelque chose qui était très séduisant.
Temple de Shiva.
Oui, il y a le temple de Shiva, celui de Bénarès qui était si extraordinaire. Là, on sent qu'on peut très facilement se perdre. Mais je dois dire que j'avais connu quelque chose comme ça en Égypte. La première fois que je suis allé en Égypte, c'était au lendemain de la guerre, n'est-ce pas? Je ne connaissais rien, j'étais alors là vraiment un petit occidental. L'Asie, pour moi, c'était la géographie, et c'est tout. Et les religions, les histoires spirituelles de l'Asie, je n'en connaissais rien du tout. Rien. J'étais un parfait béotien. Béotien, c'est-à-dire que j'avais beaucoup lu de choses, j'étais plein d'une culture occidentale. Eh bien, je suis allé passer quelque chose comme 3 semaines près de Louxor. Et alors, j'ai été pris d'une façon inexplicable, d'une espèce d'exaltation. Je ne pouvais pas traverser ces temples qui avaient l'air morts, pourtant qui étaient des ruines. Je ne pouvais pas les traverser, je ne pouvais pas toucher ces pierres sans éprouver quelque chose qui me bouleversait, au-delà de tout ce que je pouvais comprendre, penser, sentir. Inexplicablement. Je ne pouvais pas comprendre, mais ça me faisait un effet physique très fantastique. N'est-ce pas, pour nous occidentaux, tout est comme délimité. Il y a ce caillou, il y a cette chaise, il y a ce monsieur, il y a cette dame. On a l'impression que tout est comme enfermé dans un cadre, n'est-ce pas? Précis, délimité, défini. Chaque chose est définie. Maintenant que je revois l'Occident d'un autre niveau, j'ai l'impression que toute l'intellectualité, la formation intellectuelle occidentale, c'est quelque chose d'extraordinairement militaire et juridique. Tout est rigide, n'est-ce pas? Tout est mis en boîte. Et même les êtres, n'est-ce pas, ils sont définis. Et alors, ce premier contact avec l'Égypte, et alors dans l'Inde encore plus, tout d'un coup, mais cette petite définition, elle était projetée dans un espace immense qui était derrière ce petit objet que je croyais avoir défini, n'est-ce pas? Tout d'un coup, tout s'enfonçait dans des profondeurs. Des profondeurs. Et ces profondeurs-là, elles vibrent. Ça vibre. Et c'est cette vibration-là qui éveillait en moi quelque chose de très... que je ne définissais pas. J'avais pas de vocabulaire pour ça, n'est-ce pas? Mais les choses n'étaient plus enfermées dans une définition. Elles étaient tout d'un coup embrassées d'une immensité qui semblait se prolonger très très loin dans le temps. Et une immensité qui n'était pas une abstraction, qui était comme... un son, une vibration. Comme si ces murs, par exemple, avaient retenu des siècles et des siècles de gongs et de rituels, et que ça vibrait encore de quoi? D'un appel. Et au fond de tout ça, je retrouvais mon appel. Et un appel qui n'était pas de cette fois-ci, un appel qui était peut-être de beaucoup de fois. Comme si ce cri-là, ce besoin-là, il ne naissait pas d'aujourd'hui, ni même de cette vie, ni même de mon enfance en Bretagne, comme si tout d'un coup, toute cette vie avait des prolongements derrière, et que ce petit appel de maintenant, ou ce petit bonhomme que j'étais maintenant, était seulement une petite projection de quelque chose qui s'en allait loin, loin, loin derrière, et qui vibrait, qui avait appelé, et qui avait été un appel depuis si longtemps.
Y aller loin, loin, en avant.
Peut-être en avant. Peut-être. Parce que quand on était dans ce loin-là, n'est-ce pas, où c'est cette chose si ancienne, c'est comme toujours. C'est pas passé. Je le décris, alors ça a l'air d'être quelque chose qui est loin, loin, loin derrière. Mais c'est toujours. C'est toujours. Mais c'est un toujours qui n'est pas projeté dans l'avant. C'est un toujours qui est... je ne sais pas.
Un chrétien peut éprouver la même chose dans une cathédrale ou dans une église.
Ah, ça c'est très possible. C'est très possible. Mais oui, ça, certainement. En fait, tout est un moyen, un prétexte pour vous conduire à la découverte d'une autre profondeur de nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais les hommes finissent par faire du moyen une fin et une prison. Alors, ces murs, eh bien, un jour à Thèbes, il y a eu des gens qui ont dit « Assez de ces prêtres !» N'est-ce pas? Les églises partout, toujours, On est un sannyasine, on est un ashramite, on est un catholique, on est un marxiste, on se fourre dans des prisons. Alors que toutes ces choses-là sont excellentes, la religion est excellente, le marxisme est excellent, tout est excellent. Pourvu que ça vous aide à aller à ce point-là où on commence à être un homme. Un homme, c'est-à-dire quelque chose qui a une vibration en soi, n'est-ce pas ? Qui est si ancienne et si présente et si toujours là. Mais le moyen, ce qui vous a aidé à approcher de cette autre dimension, on en fait le moyen. Ça devient un dogme, ça devient une prison, n'est-ce pas ? Ou alors ça devient le gourou avec un grand G, ça devient Dieu avec un D majuscule.
Et c'est le commencement de la mort.
Mais oui, à partir de l'instant où on définit quelque chose, elle meurt, elle est morte. Je n'ai rien contre aucun christianisme, aucun hindouisme, aucun marxisme, je n'ai rien contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais j'ai contre, alors, si fortement contre tout ce qui emprisonne. On a attrapé la vérité, on l'a mise dans sa poche et puis c'est une fois pour toutes et on y est. Alors ça c'est le mensonge que je ne supporte pas. Je ne l'ai pas supporté à Thèbes, je ne l'ai pas supporté à Pondichéry, je ne l'ai pas supporté à Paris, je ne l'ai pas supporté même dans la forêt vierge. La vérité c'est quelque chose qui devient, qui est à la fois perpétuellement semblable et toujours en question si j'ose dire, ou en devenir. Ce n'est pas un truc qu'on attrape une fois pour toutes, c'est quelque chose qu'il faut incarner de plus en plus. Mais incarner, oui, je comprends bien, incarner, ça veut dire mettre dans sa peau. Et tout mon périple de sannyasine, il aboutissait à quelque chose qui vous mettait hors de votre peau. C'est là où j'arrivais vraiment au bout d'un parcours, au bout de ce qui semblait être le parcours final. Eh bien, le final, pour moi, n'était pas final. Ou alors, si c'était ça le final, eh bien alors je comprends les bouddhistes, je comprends les illusionnistes, je comprends ceux qui vont flanquer des bombes partout, parce que c'est une façon active ou négative d'arriver à la même chose. Si c'est toute cette histoire, c'est une foutue illusion, il faut en sortir ou tout faire sauter. Alors, les bouddhistes vous disent c'est le nirvana, c'est là-haut, les autres vous disent non, on va aller foutre une bombe, c'est tout pareil. En béatifique et en diabolique, c'est tout pareil, ce sont deux négations qui se rejoignent, n'est-ce pas ? Les deux chemins sont des cul-de-sac. Ou alors, cette terre n'a pas de sens. C'était ça la question qui me ramenait à Pondichéry, vers elle.
Saprême, qu'est-ce que c'est marcher sur les routes de l'Inde ?
Alors, marcher, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, de n'importe quelle façon. J'aime bien quand on s'épuise, quand le corps arrive à l'extrême limite de sa ressource. Alors on commence à basculer dans un autre rythme. C'est plus le corps qui fait un effort, c'est quelque chose d'autre qui vous porte. On marche, et il y a un grand rythme au bout de... Quand on dépasse le stade de la fatigue, quand on dépasse un certain stade, c'est un grand rythme. Alors sur les routes de l'Inde, eh bien, je peux pas dire que c'était vraiment plus qu'ailleurs, parce que c'était la marche. Sinon que les êtres, je me sentais dans un pays où on pouvait respirer mieux. Ça, l'Inde, c'est une grâce de ce pays où c'était, je ne sais pas, maintenant, je ne sais pas si on peut en dire autant. C'est une grâce de ce pays, il y a vraiment un air particulier. Mais, n'est-ce pas, j'étais au bout de la question humaine, après avoir traversé toute cette Inde, et avoir connu ou touché un peu de ce qui était son idéal. J'étais au bout de l'humain. Je n'avais pas de réponse. Ou alors la réponse, c'est de s'en aller. C'est de jeter la guenille dans le feu. J'avais pas la réponse, n'est-ce pas ? Et c'est ça, en fait, qui est la cause de la décrépitude et de la dégradation de l'Inde. C'est que sa spiritualité, n'est-ce pas, au lieu de s'en servir pour l'incarner, elle s'en est servie pour rêver, pour méditer, pour une espèce de somnolence spirituelle. spirituel qu'ils appellent le nirvana, mais qui est ils roupillent, ces gens. Ils roupillent agréablement, vastement, mais qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font pour la Terre? C'était ça à quoi je me heurtais partout. Je revenais toujours, je me cognais contre ça. Quel est le but de ce corps humain, n'est-ce pas, qui était cet enfant au bord de la mer et qui regardait l'immensité et qui avait l'impression qu'il y avait quelque chose à vivre? Alors le bout de tout ça, on ferme les yeux et puis quoi? C'est ça le bout? Mais le gosse que j'étais à regarder la petite vague, il n'aurait pas accepté ça. C'était pas ça la vie divine. C'était pas ça. Et pourtant, tout au début de l'histoire de l'Inde, d'autres avaient compris. Les rishis, il y a 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans, ceux-là avaient compris quelque chose du secret. Et ce même secret que Sri Aurobindo et Mai ont découvert. Et c'est ça, au fond, qui me... Au bout de ce circuit indien, n'est-ce pas, je revenais à cette source-là, qui est la vraie source de l'Inde, n'est-ce pas, qui est le vrai pourquoi de cette vie.
Ce n'est pas dans l'au-delà que se font les choses, mais ici.
Mais alors pourquoi, si c'était dans l'au-delà, pourquoi est-ce que diable est-ce qu'on prendrait un corps? Comme ce Nanga Senyasin, il dit, c'est fini, on jette la guenille au feu, puis voilà, on est libre. Mais c'est quel est le sens évolutif de tout ça? Alors on a fait des flagellés, on a fait des grenouilles, on a fait des poissons, on a fait des singes, on a boulonné à travers vraiment des millions d'années et souffert. Et pourquoi tout ça pour finir dans une petite méditation spirituelle? C'est pas acceptable. Ça n'a pas de sens. Toute cette fichue histoire et douloureuse histoire et extraordinaire histoire n'a pas pour but une si pauvre chose. Si un premier embryon d'être s'est mis à grouiller sur la terre, c'est que ça doit avoir un sens sur la terre, n'est-ce pas? La vérité, c'est quelque chose qui doit avoir un sens dans ce corps. Une évolution, ça se fait pas dans les circonvolutions cérébrales. Mais ça s'est fait dans des nageoires, ça s'est fait dans des pinces. Bon, ça se fait provisoirement dans un certain nombre de circonvolutions qu'on a gonflées excessivement, mais c'est pas par là qu'est la plénitude de tous ces millions d'années. C'est pas possible, ça doit être quelque chose dans la peau, ça doit être quelque chose dans le corps. Et c'est là où Mère m'a pincé. C'est là où elle m'a attrapé.
Mais l'enseignement du Bouddha lui-même, le chemin qui conduit au dévoilement de l'illusion et à un centre de la conscience, cela, vous ne le mettez pas en question, bien sûr.
Mais il y a une façon illusoire humaine de vivre, ça c'est évident. Une illusion provisoire utile, mais il est certain qu'il y a une apparence à traverser. Il n'y a aucun doute. Sortir justement ces séries de petits objets que nous mettons en boîte, il faut sortir de cette boîte-là. Ça, il n'y a aucun doute. L'illusion et le mensonge, c'est ça. C'est tout d'un coup de percer dans une dimension vraiment plus vaste. Mais ça, c'est le premier pas. C'est pas la fin. C'est le béaba. Bon, une fois que vous avez traversé cette croûte, cette petite boîte où vous enfermez toutes les choses et les êtres, une fois que vous avez traversé ce bout de carton-pâte, parce que c'est rien de plus que du carton-pâte, parce que vous avez traversé ça, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Après, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la réponse que tous les yogis n'ont pas, et que les illusionnistes n'ont pas, et que les bouddhistes n'ont pas.
Ou alors ce sont les sous-produits du bouddhisme.
Les sous-produits?
Du bouddhisme.
Non, mais
si on lit les textes du Bouddha lui-même et l'enseignement des maîtres principaux, on est quand même à un autre niveau.
Oui, ça, il y a encore tout un monde, n'est-ce pas, entre ce qu'on dit, appelons-les les prophètes ou les illuminés, comme on veut, et puis ce que leurs descendants et leurs disciples et les églises qu'on a fabriquées, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savons des vraies paroles du Christ? Qu'est-ce que nous savons des vraies paroles du Bouddha, n'est-ce pas? Nous n'en savons rien, vraiment. Alors, quand je parle de bouddhisme, je ne sais pas le Bouddha que je mets en cause. C'est toute l'église qu'on a fabriquée autour.
Vous rappelez-vous de la position de Sri Aurobindo par rapport, non pas au bouddhisme, mais à l'enseignement du Bouddha lui-même?
Mais c'est très difficile d'en parler parce que le bouddhisme est devenu le synonyme d'une certaine façon d'être et de vivre. Alors on ne peut en parler qu'en tant que bouddhisme, pas en tant que Bouddha. C'est pas possible. Il a été très utile dans l'évolution des consciences humaines pour vous aider à vous pousser à crever certaines apparences. Mais alors, c'est le premier pas. Et quel est l'autre pas? C'est là où j'arrivais au bout de ma course, n'est-ce pas? Et je n'y arrivais pas philosophiquement, j'y arrivais aussi concrètement que possible. Parce que j'étais toujours ce même gosse, n'est-ce pas, qui regardait l'immensité de la mer et qui se disait, mais où est mon secret, où est le secret de mon être, de ce corps dans lequel je suis?
Mais déjà, l'enseignement de Sri Aurobindo vous éclairait.
Oui, mais Sri Aurobindo, je le disais, j'ai lu du Sri Aurobindo, c'est entendu. Mais je ne sais pas, c'est comme si je disais à travers les pages. Je me suis baladé avec la vie divine sous le bras, je vous l'ai dit, mais... Je me baladais avec le monde de Sri Aurobindo, avec son atmosphère, avec ce qu'il représentait. Et quand je lisais une page ou deux pages, c'était même pas des mots que je regardais. Derrière, je sentais un espèce de regard ou une profondeur, et j'aimais être en compagnie de ça. Même sa philosophie, que je connaissais un tout petit peu, c'était même pas ça vraiment qui me tirait. J'avais fini le tour de l'intellect à 19 ans, n'est-ce pas? J'avais lu des centaines de livres et une fois pour toutes, j'avais compris qu'il n'y avait pas de réponse dans les livres.
Alors, dernière image de ce chemin indien. Vous, sannyasine à la peau blanche, vous marchiez sous le regard d'une population indienne bienveillante.
Ah oui, c'est plus que bienveillant, ils sont gentils. Et la vraie gentillesse, c'est pas la gentillesse qui n'est pas du sourire sur les lèvres, qui est du cœur. Ça, c'est vraiment la grâce de ce pays. Il y avait cette grande gentillesse. Mais enfin, n'est-ce pas, j'allais pas passer ma vie et j'avais besoin d'un autre sens à tout ça. J'avais besoin de toucher quelque chose de plus véridique que tout ça.
Quelle région de l'Inde avez-vous parcouru?
Beaucoup le Bengale, et puis, enfin j'ai traversé toute l'Inde, quoi. Et puis, je suis remonté par Benares, Brindavan, enfin l'Himalaya. Pas beaucoup l'ouest de l'Inde, mais surtout l'est et le nord-est, l'est et le nord-est de l'Inde.
Pendant des mois?
Ça a été très bref, ça a été très condensé. Parce que vraiment, on m'a conduit tout de suite à ma question. On m'a conduit, on m'a pas fait perdre de temps dans ma vie. Dès qu'une étape arrivait à son bout, on me mettait assez brutalement devant la réponse que j'avais besoin d'entendre, que j'avais besoin de vivre.
Avez-vous fait une rencontre avec un gourou? Sannyasine qui vous a frappé?
Oh, je n'ai rencontré
des gourous. Est-ce qu'il y a un récit à faire sur quelque chose qui vous a frappé au cours de cette...
Les gourous, moi je les trouve épouvantables, les gourous, je ne peux pas vous dire autre chose. Et encore, évidemment, c'est une façon de dire. Parce que, en fait, tout est le gourou. Chaque instant, chaque chose, chaque rencontre, chaque accident, chaque événement, c'est le gourou. Tout est là pour vous montrer le chemin. Seulement, on ne s'en aperçoit pas. On prend les choses, comme d'habitude, comme on a l'habitude de les prendre. Mais si on savait regarder, n'est-ce pas, chaque chose est le gourou, c'est-à-dire chaque chose est celui qui vous apprend, qui vous indique le chemin. Chaque rencontre, chaque homme, chaque incident, c'est ça le gourou. Pourquoi voulez-vous mettre ça dans une peau vêtue de vêtements blancs et accroupi, n'est-ce pas? Je ne peux pas supporter tous ces gens-là. J'en ai vite fait le tour. Je veux bien qu'un certain nombre de ces êtres soient tout à fait sincères, n'est-ce pas? C'est entendu. Mais ce qu'en font les disciples, c'est ça qui est odieux. Ils en font des divinités. Et puis alors, c'est très commode. Le gourou, c'est le gourou qui fera. Ça vous dispense absolument de faire l'effort et le trajet nécessaire. Ah, c'est le gourou est là, il fera le gourou.
C'est toujours la même chose, c'est le Dieu vous dispense de devenir ce que vous êtes. Mère disait ça très bien, elle disait c'est la paresse. C'est la paresse qui vous fait adorer. Ce qu'il faut, c'est devenir. Sinon, il faut du courage pour devenir. Il ne s'agit pas de s'endormir, n'est-ce pas? Et c'était ça, le glaive de mer, l'épée de mer. C'est vraiment, alors, là, on ne s'endormait pas. On ne peut pas s'endormir. Et on ne peut pas s'en remettre à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je suis revenu. Au bout de ce périple, je suis revenu dans cet ashram. Cette fois-ci, je comprenais qu'il fallait que je surmonte toutes mes phobies des murs, des cadres, des conditionnements, pour elle, n'est-ce pas? Parce que l'ashram, je m'en fichais éperdument. Mais il y avait elle, c'était elle que je voulais voir. Et alors c'est là où vraiment il y a aussi une autre grâce. Mais je crois qu'on a la grâce de son appel, n'est-ce pas ? Ça, tout dépend de ce qu'on appelle. Et probablement elle a senti cet appel en moi. Et avec son sourire, son ironie, son défi, il y avait toujours un défi au fond du regard de mère. Elle avait toujours l'air de vous défier. Voyons, tu peux, essaye. Il y avait vraiment un challenge, j'aime bien le mot anglais. Il y avait un défi au fond de ce regard. De Sri Aurobindo, il y en a une aussi de mes qui m'a suivi pendant très longtemps. En fait, depuis le moment où Sri Aurobindo m'a regardé. Et je me suis promené à travers le monde avec cette phrase, sans très bien en comprendre les implications ou les moyens de réalisation. Je me souviens, dans la vie divine, il disait, je cite à peu près, « L'homme n'est pas le sommet de l'évolution. C'est un être de transition. S'il ne peut pas se dépasser, il sera dépassé. » Ça, cette phrase-là m'avait suivi beaucoup. Comme si... vraiment, là, il touchait le centre de la question. Et en effet, n'est-ce pas, j'ai fait tout ce circuit si extraordinaire, si mouvementé pendant tant d'années à travers le monde, à travers tant d'aventures, et j'arrivais là dans mon Himalaya devant une question un peu effrayante pour moi, parce que j'étais au bout de toutes les possibilités de recherche, n'est-ce pas? J'étais devant deux sommets possibles, si je regarde ce qu'est cette humanité. Le sommet que j'avais entrevu ou même touché, qui est celui, disons, du yogi, n'est-ce pas? Ce chemin qui monte en pointe vers le sommet de la conscience, qui traverse cette espèce de calotte crânienne qui nous enferme. Et puis, on émerge comme sur une pointe de l'être, comme sur un extrême de l'être, on émerge dans quelque chose qui est évidemment très plein. Il n'y a plus de problème, là. C'est pour toujours, c'est comme le grand silence blanc qui est derrière toute chose, qui est au fond de toute chose. C'est plein, c'est bon. Et en fait, je l'ai compris après, c'était ça que quand j'étais dans ma petite cotte de noix d'enfant breton, et que je me sentais si bien sur mon bateau, et j'avais l'impression de fondre dans la risée, le vent, l'odeur de goémons, c'était ce même état, n'est-ce pas? Très plein. Mais, c'est justement là où est la différence. Mais j'avais ça dans mon corps, dans mes narines, dans mes mains qui tenaient cette barre et qui obéissaient à la risée, qui suivaient le mouvement du vent et de la toile. Mais c'est autre chose, là, dans l'Himalaya ou ailleurs, d'ailleurs. C'était comme après un évanouissement de tout, quand tout s'était tu, quand tout s'était rassemblé et élevé sur une pointe, alors j'avais ça. Et après, n'est-ce pas, on ouvre les yeux et puis toute la vie est là comme d'habitude. Alors vraiment, j'étais devant ce sommet d'humanité, si je puis dire, ou alors l'autre sommet qui est le sommet de l'électronicien, du magicien occidental qui produit des monstres et des monstres efficaces et qui est avalé par son propre système. Il y avait comme ces deux extrêmes-là devant moi. Ce sommet du yogi, ce sommet, disons, de l'électronicien ou de l'intellect. Et alors, entre les deux, quoi? On ne sait pas où il vaut mieux disparaître. Mais dans tous les cas, ça, on a l'air de disparaître dans du blanc lumineux ou bien dans du noir assez suffocant. Mais la vie divine, elle n'est pas là. Et c'est là où la phrase de Sri Aurobindo me suivait. Alors, je suis redescendu de mon Himalaya au galop, cette fois-ci. Et j'allais vers elle. Elle. Parce qu'il y avait aussi une phrase d'elle qui m'avait beaucoup frappé. N'est-ce pas? Bon, c'est très joli. On dit, l'homme n'est pas le sommet de l'évolution. On va passer à un autre stade de l'évolution. Mais par quel moyen? N'est-ce pas? Par où? Alors, il y avait une phrase de mère qui m'avait beaucoup frappé. Et c'était en fait la clé pour moi. Un jour, elle a dit ceci. Ce corps physique est capable d'un développement progressif à travers l'évolution. À travers chaque formation individuelle, n'est-ce pas tout ce que nous avons traversé dans l'évolution, la substance physique progresse. Et alors, elle dit ceci, et un jour, elle sera capable d'établir un pont entre la vie physique telle que nous la connaissons et la vie, disons, supramentale, comme chez Aurobindo, ou la vie de la prochaine espèce. C'est le corps physique qui sera le pont. C'est pas dans les sommets de la conscience là-haut, sur une pointe effilée, si effilée qu'elle finit par se dissoudre, s'évanouir, n'est-ce pas, qu'on passe ailleurs, vraiment. Ou alors on passe en dehors de l'humanité, en dehors de l'évolution, en dehors de tout. C'est dans le corps. Alors là, c'est quelque chose qui résonnait beaucoup en moi, parce que le corps, ça m'intéresse beaucoup. C'est là-dedans que je vis, n'est-ce pas? Et puis c'est toujours là-dedans que j'ai voulu vivre. Dans toutes mes aventures, ou dans toute ma façon d'être, enfin je ne sais pas comment appeler ça, il fallait que ce soit mon corps et mon être tout entier qui participent, ou alors quoi. Ça, c'était un goût que j'ai ramassé inaliénablement sur les landes quand je courais avec l'odeur des ajoncs et du goémon et les embruns. Eh bien, ça avait un sens vrai pour moi. Et puis le cri des mouettes, ça c'était plein, n'est-ce pas? Ça c'était déjà pour moi comme une vie divine. Mais évidemment, on voit bien que cette vie-là n'est possible que quelques minutes privilégiées dans l'existence, et bien, qui n'était pas du tout la vie divine. Alors comment trouver, comment l'incarner cette vie? Et c'est après avoir essayé ou vu ce qu'était réellement la fameuse réalisation des yogis, parce que j'y ai touché, n'est-ce pas? Ils en font des embarras. C'est très bien Pour une humanité qui est très engloutie dans la matière, c'est très bien de se retirer un peu en arrière, de traverser toutes ces couches et de conditionnement, et puis d'émerger dans un peu de silence. Ça, c'est très bon. Il n'y a rien à rejeter ou à mépriser, n'est-ce pas? Mais c'est comme si, bon, vous donnez 2 minutes ou 10 minutes d'oxygène dans la journée, ben, c'est pas la solution. Ou alors, si c'est la solution, l'évolution est une espèce de chose absurde dont l'aboutissement est le retrait de l'évolution. Enfin, j'emploie des mots là abstraits, mais pour moi, ça avait un sens tout à fait physique et concret, n'est-ce pas? Parce que j'avais touché à ça. J'avais touché à cette lumière, cette étendue. Et c'est là où est venu mon point d'interrogation, alors tout à fait impérieux et angoissant, qui m'a fait dévaler l'Himalaya au galop pour aller, enfin, voir celle-là qui disait, c'est dans le corps physique est le pont. Alors, en dépit de ce qui me heurtait tellement, n'est-ce pas, ces murs, un ashram, tout ce conditionnement qui me semblait aussi peu valable en Asie qu'en Occident, tout ce qui est mur pour moi, ou tout ce qui est école, c'est quelque chose que j'ai jamais pu supporter, qui est suffocant. J'ai l'impression que j'étouffe là-dedans. Mais enfin, il y avait elle dans cet ashram. Alors je me suis dit, il faut bien, j'ai traversé la forêt vierge, pourquoi est-ce que je ne traverserai pas l'ashram? Sachant que c'est comme ça. Et puis il y a une grâce aussi, parce qu'il y a toujours des grâces, en fait. Quand on cherche, quand on appelle, il y a toujours une main qui est là. Mais avec le recul, on voit que c'est si merveilleux. Une main si attentive, douce, bonne, qui est là et qui veille et qui vous tend la main quand vous ne savez plus, ou quand vous ne pouvez plus, surtout quand on ne peut plus. Alors là, il y a aussi une grâce.
Comment était l'ashram?
L'ashram, il y avait déjà beaucoup de monde à l'époque. Il y avait peut-être un millier de personnes, un millier de disciples. Bien sûr, ils étaient tous répandus un peu à travers la ville, mais il y avait un espèce de bâtiment central, n'est-ce pas, où ils se réunissaient. Ils avaient aussi beaucoup d'activités sportives, ce qui n'est pas l'habitude de la plupart des ashrams. Ils étaient tous en blanc, ils avaient un air assez tranquille et pas obscur, semblait-il. Ils avaient chacun des activités. C'est-à-dire qu'il y avait divers services où chacun était censé travailler un peu, et puis se réunissait pour méditer. Mais l'accent, en tout cas officiellement si j'ose dire, l'accent était surtout mis sur le travail, les activités, le développement sportif. Alors il y avait beaucoup de jeux, n'est-ce pas? Il y avait aussi bien du hatha yoga que du football, que du tennis, que du judo, il y avait toutes les activités possibles.
À cette époque-là, Sri Aurobindo était déjà mort.
Wow.
Qui était Sri Aurobindo? Qui était mère? Quels étaient leurs rapports?
Mais c'est ça le sens même. Un ashram, ça ne veut rien dire du tout, n'est-ce pas? Il y a un être, quel qu'il soit, qui fait une expérience, qui a une expérience. Et la qualité de cette expérience, spontanément, attire un certain nombre de gens qui voudraient bien participer à l'expérience, ou qui voudraient bien comprendre. C'est pas nouveau, n'est-ce pas? Les Grecs connaissaient ça très bien. Il y avait les péripatéticiens, il me semble, qui avaient leurs disciples, et en marchant et en déambulant, ils communiquaient, ils échangeaient des expériences. C'est ça l'origine de l'ashram. Il y a un être qui a une expérience, ou un type de réalisation, et puis des disciples, comme on dit, qui viennent se rassembler autour de lui. Oui, mais le malheur est que les disciples, évidemment, grandissent, et puis l'ashram, ce qui est devenu un ashram, n'est-ce pas, par l'accumulation des circonstances, ben, devient leur propriété, et le maître devient leur propriété, et c'est eux qui détiennent la vraie parole du maître. N'est-ce pas? Ça, c'est l'éternelle histoire partout. C'est celle que j'allais voir, d'ailleurs.
Il me faut, si c'est possible, un petit point historique sur le rôle de Sri Aurobindo dans l'ashram, celui de mère, les rapports qu'on peut avoir dans le temps Sri Aurobindo et mère.
L'action de ce que j'appelle le gourou, enfin, ou le maître, celui qui a l'expérience, son action n'est pas tellement, pas toujours en tout cas par des paroles. Sri Aurobindo a essayé d'expliquer un peu, ce qu'il faisait, ce qu'il cherchait, n'est-ce pas, par écrit. Mère l'a pendant assez longtemps communiqué par la parole. Il y avait des entretiens le soir au terrain de jeu de l'ashram, n'est-ce pas. Mais en fait, c'était pas ça le principal. Le principal, c'est le pouvoir de rayonnement de l'expérience. C'est quelque chose qu'on, en Occident, on a du mal à comprendre parce que tout a l'air mental. On fait des philosophies, n'est-ce pas. Alors, on vous met ça en paragraphe. Ce sont des idées. Est-ce que là, ce ne sont pas des idées, ce sont des forces, n'est-ce pas? On oublie toujours que le mental, c'est simplement un petit produit desséché qui essaye de traduire une force vivante derrière. Eh bien, la force vivante, elle est là, et c'est avec ça qu'il faut entrer en contact. En fait, le vrai travail du disciple, c'est d'établir le contact avec la force ou la puissance d'expérience qui est là. Parce que c'est pas quelque chose qui est enfermé dans un corps, ça rayonne, n'est-ce pas? Comme l'odeur d'une fleur, ou comme un minerai radioactif. Il faut se mettre en contact avec ça, et laisser ça, ce pouvoir d'expérience, œuvrer ou travailler dans votre propre chair. Ça devrait être l'effort du disciple.
Et qui a fondé l'ashram de Pondichéry?
Mais on ne peut pas dire qu'il s'est fondé, n'est-ce pas? Qu'on a fondé, que Sri Aurobindo à un moment a fondé l'ashram. En fait, c'est pas comme ça, n'est-ce pas? Il s'est trouvé que des disciples, comme je vous l'ai dit, sont venus comme des abeilles là tout autour, et puis ça a fait un ashram. Et puis un jour, on a décidé qu'il y avait un ashram parce qu'il y avait ce monde qui était là. En fait, c'est ça la vie de l'ashram, c'est le maître qui est là et puis un certain nombre d'abeilles qui viennent butiner autour. Et puis normalement, quand le maître disparaît, tout ça est fini. Ou alors si ça persiste après le maître, c'est une église. N'est-ce pas? À partir du moment où le centre d'expérience vivant n'est plus là, eh bien alors on vit sur des théorèmes, on essaie d'appliquer plus ou moins les idées du maître, c'est l'embryon d'une église, n'est-ce pas, ou d'une école. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs.
Alors vous, Saprem, vous revenez à l'ashram, et comment alors vous appelez mère? Et qui est mère?
Mère, oui, c'est d'abord ce regard. N'est-ce pas? Très différente de Sri Aurobindo. Et qui pourtant allait de plus en plus ressembler à celui de Sri Aurobindo. Mais très différent. C'était un glaive de lumière, quelque chose qui perçait au fond de l'être. Qui allait chercher une racine. Et on sentait qu'elle traversait des couches ou des revêtements de l'être. Pour arriver à toucher quelque chose au fond. C'était une puissance en action, mais c'était ça. Une puissance, ce qu'on appelle une Shakti en Inde.
Qui était-elle? D'où venait-elle?
Oh, la longue histoire de mère. c'était une Française, elle était née à Paris. D'un père turc, d'une mère égyptienne. L'histoire de mère, c'était un roman. En fait, mère, c'est la plus grande aventure que j'ai jamais connue. On ne peut pas dire toute l'histoire de mère.
Il faut pourtant un peu là. Il le faut.
Mais elle aussi, d'une autre façon, elle a frappé un peu à toutes sortes de portes pour trouver qu'il était c'est la solution de l'homme, n'est-ce pas? Elle était née, évidemment, avec la conscience que cet homme, cet être humain n'était pas le produit final, qu'il y avait autre chose qui devait sortir de cet être et qui était le pas suivant de l'évolution. Ça, elle était née consciente de ça. Et elle a frappé à beaucoup de portes, n'est-ce pas? Elle a jonglé avec toutes les philosophies de l'Occident. Elle a jonglé avec toute l'esthétique de l'Occident. Elle était amie de Rodin, de Monet, de Sisley, des grands impressionnistes. Elle a frappé à la porte de la musique. C'était une grande musicienne. Elle a frappé à beaucoup de portes. Et puis, elle a frappé à une porte très intéressante et très dangereuse, qui est la porte des pouvoirs occultes. N'est-ce pas? S'il y avait un autre être, un degré au-delà de l'humain, par où allait-il se fabriquer? Et une réponse assez naturelle, c'est de dire bah, peut-être qu'il y a des pouvoirs occultes dans l'homme qui doivent donner le passage, ouvrir le passage à un autre état. Évidemment, peu d'êtres sont capables de ce genre d'expérience, n'est-ce pas? Et surtout, peu d'êtres, s'ils y touchent, sont capables d'en sortir. Parce que c'est...
C'était l'époque d'Eliphas Lévi, c'était l'époque de Steiner, c'était l'époque de Schuret.
Oui, c'était l'époque de Schuret, c'était l'époque de Gordiev encore, n'est-ce pas? Et Mère a rencontré quelqu'un qui s'appelait Théon, qui était un super Gordiev. Gordiev était un petit garçon à côté de ce Théon, un homme qui avait beaucoup de connaissances occultes. N'est-ce pas? On ne connaît que les lois de la matière, il y en a d'autres derrière. C'est évident. Et on peut s'imaginer, et d'autres qui sont très puissantes et très efficaces, et c'est une grâce que les hommes n'en connaissent rien, parce qu'ils en feraient un usage épouvantable, n'est-ce pas? Mais enfin, Mère a expérimenté ça aussi pour voir si, justement, on ne pouvait pas se servir de ces moyens dits occultes. Et elle a bien vu, comme Sri Aurobindo lui-même à divers exemples, que ces pouvoirs occultes, n'est-ce pas? C'est un peu comme un caoutchouc qu'on tire. Aussi longtemps qu'on tire le caoutchouc, il est tendu, n'est-ce pas? Et il peut faire des miracles, ce qu'on appelle des miracles. Et puis vous le lâchez, pop, c'est fini. Tout revient comme c'était. C'est l'histoire de Sri Aurobindo, d'un disciple ou d'un ami de Sri Aurobindo qui avait été mordu par un chien enragé. Par ses pouvoirs occultes, il a arrêté le développement de la maladie. Et c'était maîtrisé, ça a été maîtrisé pendant 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus. Et puis un jour, cet homme, qui était un yogi, n'est-ce pas, s'est mis en colère. Il a perdu le contrôle de lui-même. 24 heures après, il mourait de la rage. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il avait tiré le caoutchouc de sa conscience, si je puis dire, et puis ça, c'était dominé, maîtrisé, c'était miraculeux pour tous les autres. Mais vous lâchez le caoutchouc, c'est fini. Tout revient comme avant. Ce sont des miracles de feu de paille, n'est-ce pas? Ça éblouit le brave homme, parce qu'on peut se servir de ça pour beaucoup de choses. Ça peut paraître très éblouissant et très miraculeux, mais ça n'a pas de pouvoir de durée. Ça n'a pas le pouvoir de la chose qui sort de la matière, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui s'impose à la matière. Alors, vous pouvez imposer ce pouvoir ou cette force ou cette volonté sur la tête ou sur quelqu'un, le guérir, faire ceci, faire cela, mais il rattrapera sa maladie 3 minutes après ou 15 jours après. Et puis finalement, on attrape tous la mort au bout. Et alors, il y a par-dessus le marché le beaucoup plus grand danger de se servir très mal de ces pouvoirs. N'est-ce pas, les hommes, qu'est-ce qu'ils en feront tout de suite? Ils se serviront de leur pouvoir pour se débarrasser de tout ce qui les gêne, n'est-ce pas? Ou alors, encore plus grave, ils se serviront de leur pouvoir pour éliminer tout ce qui leur semble être le mal du monde. Et qu'est-ce qu'ils en savent de ce mal? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce que ce mal, justement, n'est pas une nécessité pour conduire à quelque chose d'autre qui est par-delà? Les hommes ne savent rien. Il faut avoir une grande vision pour avoir un pouvoir.
Après avoir expérimenté ses pouvoirs occultes...
Mais elle a vu justement que c'était un cul-de-sac, que c'était pas la solution.
Alors que rencontre, que trouve Mère?
Et alors, comme toujours, il y a cette grâce qui est là. Quand vous avez fini une expérience et que vraiment il y a l'appel pour aller plus loin, elle est entrée en contact avec un philosophe qui devait aller faire une propagande électorale en Inde pour être élu au Parlement. Et c'est comme ça que Mère, ayant rencontré ce philosophe, a été amenée à Sri Aurobindo. C'est comme ça, après avoir parcouru, je ne donne pas tous les détails de ce circuit, n'est-ce pas? Mais enfin, toutes les voies se sont, pour elle, se sont fermées les unes après les autres. Elle a bien vu que la jonglerie philosophique ne conduisait pas au-delà d'une jonglerie, n'est-ce pas? Que l'esthétique avait sa limite, que la musique aussi avait sa limite, que les grands pouvoirs occultes avaient leurs limites, que tout ça, c'était pas la clé pour passer dans une humanité qui serait peut-être vraiment humaine, ce qu'elle n'est pas trop, ou pas encore en fait. Et c'est là où elle est venue à Sri Aurobindo.